19h en temps universel, 15h ici à Washington. Vous faites bien d'écouter VOA Afrique. Alexandre Frolognon avec vous. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré ce dimanche que l'armée israélienne avait retiré ses troupes de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza pour préparer la poursuite des missions, dont une opération à Rafah. Israël a déclaré qu'il avait retiré davantage de soldats du sud de la bande de Gaza, ne laissant qu'une seule brigade, alors que l'État hébreu et le Hamas ont envoyé des équipes en Égypte pour de nouveau pourparler sur un éventuel cessez-le-feu dans ce conflit qui dure depuis 6 mois. Le Hamas souhaite que tout accord mette fin à la guerre et au retrait des forces israéliennes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il n'y aura pas d'accord sans libération d'otages et qu'il ne céderait pas à la pression internationale. Et les agences des Nations Unies et d'autres organisations humanitaires ont dénoncé le bilan dévastateur de 6 mois de guerre à Gaza, avertissant que la situation était plus que catastrophique. 6 mois, c'est un cap terrible, a déclaré la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avertissant que l'humanité a été pratiquement abandonnée. Le conflit à Gaza a fait plus de 33 000 morts avec plus de 13 000 enfants tués selon l'UNICEF. Les rebelles houthis du Yémen ont déclaré avoir ciblé un navire britannique et 2 navires israéliens. Une société de sécurité britannique a signalé 3 attaques au large du Yémen en moins de 24 heures. Depuis novembre, les Houthis ont mené des dizaines d'attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ils ont élargi leur cible aux navires associés aux États-Unis et au Royaume-Uni après des frappes menées en janvier par Washington et Londres contre leur position au Yémen. L'Union européenne condamne le raid mené par les autorités équatoriennes contre l'ambassade mexicaine à Quito pour arrêter l'ancien vice-président équatorien Jorge Glass qui s'y était réfugié, soulignant qu'il était essentiel de protéger l'inviolabilité diplomatique. Le Mexique avait accordé vendredi l'asile à Jorge Glass, réfugié depuis le 17 décembre dans son ambassade à Quito et visé par un mandat d'arrêt pour corruption présumée. Une décision qualifiée d'illégale par Quito.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le bilan de l'attaque d'un village de la province de l'Ituri dans l'est de la RDC s'est alourdi à 25 morts, selon un chef local et un dirigeant de la société civile. Le groupe Codeco, l'une des nombreuses milices opérant dans l'est du pays, ravagée par les conflits, a perpétré le meurtre dans le village de Galaï, à 70 km au nord-ouest de la ville de Bounia. 15 corps ont été découverts ce dimanche, en plus des 10 corps retrouvés hier. La situation des droits de l'homme en Ituri s'est détériorée depuis le début de l'année, alors que la Codeco multiplie les attaques, selon un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le Rwanda commémore ce dimanche le génocide il y a 30 ans qui a fait 800 000 morts. Le Rwanda a été complètement humilié par l'ampleur de notre perte. Les leçons que nous avons tirées sont gravées dans le sang, a déclaré le président rwandais Paul Kagame. Plusieurs dirigeants ont fait le déplacement à Kigali pour les commémorations. D'autres ont publié des messages en hommage aux victimes des massacres. Personne, pas même l'Union africaine, ne saurait se disculper de son inaction face à la chronique d'un génocide annoncé. Ayons le courage de le reconnaître et de l'assumer. C'est le message du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué le parcours du Rwanda, passé de l'obscurité à l'espoir et de la douleur au progrès. C'est un exemple pour le monde, a-t-elle précisé. Des manifestations ont eu lieu hier dans l'est du Burkina Faso. Des centaines de personnes ont protesté à Kantchari pour réclamer assistance alimentaire et davantage de sécurité. Les manifestants ont également demandé l'arrivée immédiate du bataillon d'intervention rapide promis à Kantchari, une unité de défense dédiée à la riponse contre les djihadistes. La localité est sous blocus de groupes djihadistes depuis plus de 2 ans. C'est la fin de ce bulletin sur VOA Afrique. Restez avec nous. L'actualité continue 24/24 en direct à l'antenne, mais également sur notre site web voafrique.com et sur nos réseaux sociaux. Je vous retrouve dans 1 heure.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Malakiza avec vous, Michel Claire-Joseph assure la mise en onde. Ce dialogue des religions aborde l'impact de la politique étrangère sur les relations entre l'administration américaine et les communautés musulmanes. Nous sommes en ligne avec le professeur Mohamed Mbodj de Manhattanville University. Il donne des cours sur l'histoire africaine et africaine-américaine, l'islam, l'esclavage, l'histoire mondiale, l'histoire médiévale et les études globales de la diaspora africaine. Les recherches actuelles de M. Mbodj portent sur les questions d'identité, de religion et de changement social. Bonsoir, professeur Mbodj.
Bonsoir, Eric.
Alors, la récente décision des dirigeants musulmans américains de boycotter les célébrations du Ramadan et de l'Aïd à la Maison-Blanche en raison du soutien perçu du président Joe Biden à Israël et de son manque d'action face à la crise humanitaire dans la bande de Gaza, selon la même communauté, soulève des questions sur l'impact de la politique étrangère sur les relations entre l'administration américaine et les communautés musulmanes ici aux États-Unis. Comme vous allez le suivre dans ce reportage de Patsy Ouida-Kouswara, ce n'est pas la première fois que la colère des musulmans américains éclipse le Ramadan à la Maison-Blanche. Le récit est signé Thierry Kaoré.
L'observation du Ramadan se poursuit, même au milieu des décombres à Rafah, où plus d'un million d'habitants de Gaza cherchent à échapper à l'offensive militaire israélienne. À Washington, les musulmans américains ont prié devant la Maison-Blanche au début du mois. L'ambiance était sobre. Les fidèles ont déclaré que les souffrances endurées dans la bande de Gaza leur pesaient lourdement.
Welcome to the White House. Bienvenue à la Maison-Blanche et Eid Mubarak. Eid Mubarak.
Depuis son élection, le président Joe Biden a accueilli des dirigeants musulmans, perpétuant ainsi une tradition vieille de plusieurs décennies à la Maison-Blanche. Les présidents américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont organisé des dîners d'iftar pendant le Ramadan ou des réceptions de l'Aïd el-Fitr après le mois sacré depuis la présidence de Bill Clinton. Mais cette année, les musulmans américains qui ont participé aux précédents événements du Ramadan à la Maison-Blanche disent qu'ils ont l'intention de décliner une éventuelle invitation.
Cette demande est due à l'incapacité de l'administration à répondre aux demandes de la communauté musulmane en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent et son refus d'arrêter de fournir à Israël des armes qui sont utilisées dans un génocide contre nos frères et sœurs palestiniens à Gaza.
La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré à la VOA qu'aucun événement lié au Ramadan n'avait été annoncé.
Nous comprenons qu'il s'agit d'une période douloureuse pour un certain nombre de communautés. Comme vous le savez, de hauts responsables de la Maison-Blanche ont rencontré des membres des différentes communautés, arabes, musulmanes, palestiniennes, pour discuter de leur point de vue, pour exprimer leurs préoccupations, et nous nous en réjouissons.
Des manifestants pro-palestiniens ont à plusieurs reprises perturbé les événements organisés par le président Biden. La Maison-Blanche souhaiterait sans doute éviter de telles scènes. Mais ce n'est pas la première fois que le Ramadan à la Maison-Blanche est perturbé par une controverse. Certains musulmans ont boycotté les célébrations virtuelles de l'Aïd du président Biden en 2021, lorsque la violence s'est intensifiée à Gaza et a tué plus de 260 Palestiniens. En 2018, le président Donald Trump a accueilli des diplomates des pays à majorité musulmane, mais n'a invité aucun groupe américain, dont les membres avaient dénoncé la rhétorique et les politiques de Trump qu'ils jugeaient anti-musulmanes. Mais beaucoup disent que leur colère à l'époque n'était rien comparée à l'indignation qu'ils ressentent cette année. Certains font actuellement campagne pour s'assurer que Biden ne remporte pas un second mandat.
Je veux m'assurer que lorsqu'il perdra, il saura que c'est à cause des votes des Américains d'origine arabe et des musulmans.
La Maison-Blanche a déclaré qu'elle était activement engagée auprès des Américains arabes et musulmans depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Certains membres de la communauté ont refusé de rencontrer les responsables.
Voilà donc ce reportage d'illustration. Professeur Mbodge, ce débat soulève des questions importantes sur la manière dont les politiques étrangères des gouvernements peuvent influencer les dynamiques internes, les relations intercommunautaires et la perception de l'inclusion et de la représentation des minorités religieuses aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Permettez-moi d'abord d'introduire un petit chapitre historique. Peu de gens s'en souviennent ou même le savent. Le premier État qui a reconnu l'indépendance des États-Unis en 1777, c'est le Maroc. Le premier État à avoir signé un traité qui est toujours d'ailleurs en vigueur, donc c'est un traité qui n'a jamais été abrogé, c'est aussi avec le Maroc en 1786. Donc ce qui montre qu'il y a une épaisseur historique assez importante des relations diplomatiques entre les États-Unis et une puissance musulmane avérée comme le Maroc. Alors le contexte actuel, évidemment, est différent. Certainement, le Maroc n'est pas un acteur extrêmement important sur le plan international ou sur le plan de ses relations avec les États-Unis. Mais il est évident que lorsque les observateurs parlent souvent de la politique américaine, ils disent que tout est local. Ils pensent que les affaires étrangères pèsent très peu, en particulier dans les élections présidentielles, qui sont d'ailleurs les seules élections où peut-être elles ont l'occasion de peser. Mais cette fois-ci, on semble se diriger vers une exception. Il semble qu'il y ait une véritable crise de confiance des musulmans vis-à-vis de l'administration américaine d'une manière générale. Et cette crise de confiance, pour l'instant, se manifeste à des votes de non-engagement et peut-être peut se caractériser par un vote sanction lorsque le mois de novembre viendra. Donc, de ce point de vue-là, on peut alors essayer de penser à ce que, effectivement, pour une fois, une politique étrangère risque peut-être de coûter la Maison-Blanche au Parti démocrate, en sachant les marges, surtout dans les États clés, dans les États où, comme le Michigan, où visiblement l'électorat musulman peut faire peut-être la différence.
Oui, justement, à quel point le vote des musulmans américains est-il susceptible d'être un facteur décisif dans les élections présidentielles de novembre? Et quelles sont les tendances historiques à cet égard?
Alors, dans les États où les musulmans sont fortement représentés, comme le Michigan, le New Jersey et d'autres États, mais en particulier les États qui sont en ballotage, comme le Michigan, les voix des musulmans dépassent largement l'écart qui peut faire gagner ou pour faire perdre une élection. C'est-à-dire que si les musulmans en novembre votent comme ils ont voté aux dernières élections présidentielles, Biden est assuré de gagner le Michigan. C'est aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que ça va se faire ou ne va pas se faire? C'est un peu la question qui se pose. De l'autre côté aussi, il y a maintenant, en dehors du Michigan, d'autres États sont en train de manifester leur colère. Par exemple, récemment, dans le New Jersey, les associations musulmanes ont boycotté donc les fêtes de Ramadan, les commémorations collectives, etc., organisées par le gouverneur du New Jersey, Murphy. Et là aussi, c'est la même colère. C'est l'idée que les États-Unis et d'une manière générale le corps politique américain est tellement favorable à Israël qu'il ne donne aucune considération, aucun respect pour ce que les musulmans, qui pourtant sont des alliés fidèles dans l'électorat. La deuxième chose, c'est que ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que de manière philosophique, beaucoup d'observateurs ont toujours été frappés pourquoi les musulmans vont voter démocrate, alors que la plupart de leurs vues, ou en tout cas la grande majorité des musulmans, ont des vues assez conservatrices, qui sont plutôt proches des républicains. Par exemple, sur l'abortion, la plupart des musulmans sont contre l'abortion, et donc souvent c'est quelque chose qui est défendu, donc le droit à l'abortion par les démocrates, alors que ce sont les républicains qui essaient de restreindre ce droit. Donc on pouvait penser que naturellement, les musulmans pouvaient plutôt pencher du côté républicain. La taxation, donc les taxes, les musulmans, donc le régime financier musulman est un régime à très très faible taxation. En réalité, d'ailleurs, la taxation est un peu considérée comme pas tellement musulmane, et ce qui fait que l'islam et les pays musulmans ont très peu de taxes, parce qu'ils ne considèrent pas, par exemple, la taxe personnelle obligatoire sur les revenus, etc., n'est pas tellement quelque chose que les musulmans, sur le plan théologique, acceptent. Et donc là aussi, le parti républicain est le parti de la moindre taxation possible. Donc on pouvait penser qu'effectivement, là, il y a un rapprochement, par exemple, avec l'électorat musulman. Et autre chose, hein, de la restriction de la liberté sexuelle, etc. Donc beaucoup de choses pour lesquelles les conservateurs américains et les musulmans qui sont plutôt conservateurs peuvent se rejoindre. Mais paradoxalement, les musulmans votent démocrates parce qu'ils pensent que d'une manière générale, les démocrates ont une plus grande ouverture d'esprit par rapport à ce qui est étranger, à ce qui n'est pas occidental, à ce qui n'est pas chrétien, etc., et ont une plus grande tolérance, disons, de ce qu'on peut appeler le dialogue des peuples, la mixité, etc., etc. Donc, ce qui explique pourquoi les musulmans sont plutôt favorables aux démocrates, alors que leur philosophie politique aurait pu les rapprocher un peu plus que des républicains.
Et dans quelle mesure les positions des candidats présidentiels sur les questions de politique étrangère, en particulier celles liées au Moyen-Orient, sont-elles déterminantes pour gagner le soutien des musulmans américains?
Certainement pour les musulmans américains, ça va être important. On peut penser que peut-être les Noirs américains qui ne sont pas engagés, disons, sur le plan culturel avec le Moyen-Orient peuvent ne pas aller dans ce sens comme, par exemple, les musulmans d'origine donc du Moyen-Orient, qui, évidemment, pour des raisons tout à fait claires et précises, peuvent effectivement être très en colère contre l'administration Biden. Mais il y a une sorte de solidarité musulmane. Il y a une sorte de solidarité musulmane. Et aussi la virulence des prises de position qui souvent... au lieu de se limiter, disons, en quelque sorte à la guerre Gaza-Israël, déborde un tout petit peu. Il y a un vocabulaire qui est vraiment islamophobe en fond de teint dans cette discussion, dans ces prises de position de l'élite politique américaine. Et là, les Noirs américains se sentent visés en quelque sorte. Deuxièmement, les musulmans étant une minorité, comme les Noirs ont été une minorité souffrante, pendant longtemps, il y a une sorte de solidarité avec ces minorités, et évidemment, les Noirs américains sont plus sensibles au sort des Palestiniens qui sont expulsés de leurs terres, qui sont dominés par ce qu'on peut appeler un apartheid. Lorsqu'on utilise le mot apartheid, qui bien entendu a été utilisé et pratiqué en Afrique du Sud contre les Noirs, donc ici aussi, il y a une sorte de symbolique où les Noirs américains vont se sentir irrités immédiatement lorsque ce mot sort et vont chercher effectivement à être du côté des opprimés, à être du côté de ceux qui, peut-être historiquement, sont en train de subir les mêmes souffrances, les mêmes vexations que peut-être les Noirs américains ont subies dans leur histoire. Donc il y a une sorte de solidarité qui, ici, peut se manifester très facilement.
La question palestinienne... Et les événements récents à Gaza semblent donc façonner les perspectives des musulmans américains sur l'administration Biden et sur la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Comment les actions de l'administration Biden envers Israël et la crise à Gaza se comparent-elles à celles de l'administration Trump?
L'administration Trump avait nommément visé les musulmans, les pays musulmans. Mais en même temps, l'administration Trump avait créé d'excellentes relations avec des pays musulmans phares. Évidemment, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes, etc. viennent à l'esprit, la Jordanie, donc ont été élevés, et même l'Égypte ont été élevés, disons, sur le plan diplomatique par l'administration de Trump. Certainement, sous prétexte d'arrêter le flot migratoire, il y a eu pas mal, d'agressions verbales que la communauté musulmane a ressenties. Mais en fin de compte, c'était plus des velléités, c'était plus des prises de parole qui n'ont pas eu beaucoup d'effet. Et en plus, que les musulmans n'attendaient pas beaucoup de Trump, il faut le dire. Ils n'ont pas été alliés de Trump dans les élections. Il n'y a pas beaucoup de déception parce qu'ils savaient peut-être ce qui les attendait. Mais par contre, le Parti démocrate, Biden, les musulmans se sentaient être des alliés, pensaient être des pions importants dans l'échiquier électoral et ont délivré la victoire au Michigan. Donc ils pensaient qu'il y aurait une sorte de sensibilité à leurs problèmes. Sur le plan des actions, sur le plan des politiques, mais aussi sur le plan de la prise de parole. Et quelquefois, les gens ne se rendent pas compte que c'est la prise de parole ou le silence, donc le manque de prise de parole, est souvent très blessant par rapport même à des pratiques politiques réelles. Et souvent, les gens sont mécontents plus par ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas, plutôt que par les mesures qui ont été prises. Parce que lorsque quelqu'un prend des mesures, on peut prendre des contre-mesures. On sait évidemment contre quoi se battre. Mais lorsqu'il s'agit de paroles, lorsqu'il s'agit d'une sorte d'ignorance des problèmes et des souffrances des gens, ça rend difficile la réaction des gens parce que au fond, on ne sait pas trop que faire. Et c'est là peut-être où il y a un problème de communication. Et il y a un problème de sensibilité peut-être des communautés musulmanes. Certains diront de hypersensibilité, mais néanmoins, le problème est là.
Vous suivez le dialogue des religions, l'impact de la politique étrangère sur les relations entre l'administration américaine et les communautés musulmanes ici aux États-Unis. C'est notre sujet de la soirée. Nous en parlons avec le professeur Mohamed Mbodj. Professeur, quels sont les défis spécifiques auxquels sont confrontés les présidents américains lorsqu'ils essaient de naviguer entre leur politique étrangère et leurs relations avec les communautés musulmanes?
Alors, la politique étrangère aux États-Unis souvent est l'objet de prise de position parce qu'on peut appeler des faiseurs d'opinion. Il y a beaucoup d'hommes riches, qui financent des options de politique étrangère favorables à leurs origines ethniques, religieuses ou autres. Et donc, il y a une sorte de liberté de parole et d'entreprendre dans ce domaine pour s'attirer la sympathie de certaines communautés. Et souvent, on ne cherche pas à faire une sorte de balance, à jouer à l'équilibrisme. Lorsqu'on soutient l'Ukraine, ça peut facilement devenir une sorte de vocabulaire anti-russe qui est légitimé par les problèmes que les Russes infligent, par exemple, aux Ukrainiens. Donc là, ce vocabulaire, s'il est déclaré être recevable et acceptable, maintenant, si on veut l'utiliser dans les relations et dans les problèmes entre Israël et donc la Palestine, on entre dans un domaine qui est beaucoup plus, mouvant, du sable mouvant, parce que là, on a affaire d'abord à un État contre un non-État. Quand même, la Palestine a beau exister et être reconnue comme un observateur aux Nations Unies, c'est toujours un non-État en quelque sorte. Donc, sur le plan international, on n'entre pas dans une relation d'État à État, mais plutôt de groupes non-étatiques qui agissent comme des États contre un État, Israël, et donc ça rend le problème difficile. Et l'analyse des journalistes américains, l'analyse de la télévision américaine, le populisme même, créé en particulier par le côté strident du nationalisme chrétien américain, crée des œillères ou en tout cas guide la politique étrangère américaine dans une seule direction, et cette direction-là, souvent, c'est au détriment justement des Palestiniens Et là, c'est là où peut-être la politique étrangère, le débat sur la politique étrangère aux États-Unis est très biaisé. Parce que lorsque le journaliste commence par mettre tout ça sur il y a un seul État démocratique au Moyen-Orient, ou bien c'est un État démocratique qui se bat contre des groupes terroristes, ou bien le vocabulaire c'est le plus fidèle allié des États-Unis à l'heure actuelle, etc. Donc on se rend compte que d'ores et déjà, il y a un jugement, il y a déjà une limite de la compréhension de la situation des Palestiniens ou d'une manière générale du monde musulman par rapport, par exemple ici, aux intérêts israéliens dans ce cas précis.
Y a-t-il des précédents historiques de boycott ou de protestation des musulmans américains en réponse à des politiques étrangères spécifiques menées par les administrations américaines?
Je ne me souviens pas d'une protestation majeure et importante. Certes, il y a des communautés musulmanes aux États-Unis qui ont des préoccupations particulières. Les Iraniens, par exemple, ont été un peu sous les feux de la rampe à la fin des années 70 et durant toutes les années 80 à cause de la crise iranienne et des relations entre les États-Unis et l'Iran. Mais souvent, cette crise n'allait pas dans le sens d'introduire l'islam comme étant un facteur d'explication dans les décisions qui étaient prises ou qui n'étaient pas prises, dans le respect ou le non-respect de tel ou tel principe, etc. Donc, ça, c'est une crise dont on peut se souvenir très facilement. Mais l'autre, c'est bien entendu l'Afghanistan où Jimmy Carter est intervenu pour soutenir les Mujahideen, donc qui finalement donc ont bouté l'Union soviétique hors d'Afghanistan, donc les talibans comme on les appelle localement. Et là aussi, c'était pas tellement le facteur religieux était un peu dans le fond. Et beaucoup de communautés musulmanes, effectivement, étaient du côté de l'intervention américaine, parce que, bien entendu, une puissance communiste qui est fondamentalement, donc par définition à ce moment-là, anti-religion et donc anti-musulmane, était en train d'envahir un pays et les musulmans de ce pays, donc les talibans, résistaient. Donc il y avait une très grosse sympathie donc dans cette direction, et effectivement l'Amérique a bien utilisé ce facteur pour attirer des pays musulmans dans son camp et pour démontrer que à l'époque l'Union soviétique, malgré tout son vocabulaire d'émancipation des peuples, etc., etc., en réalité était un oppresseur, et ici c'était l'illustration que l'Union soviétique allait donc opprimer la population musulmane afghane. À ce moment-là, effectivement, les musulmans étaient très certainement courtisés et ont assez massivement répondu favorablement à l'appel du pied du président Carter et de ce qu'ils ont suivi par la suite dans leur intervention en Afghanistan. Alors, ce sont les deux exemples dont je peux me souvenir, disons rapidement. Et accessoirement, peut-être, la dislocation de la Yougoslavie, où l'une des populations les plus martyrisées dans ce processus était évidemment les populations musulmanes, en particulier de la Bosnie-Herzégovine. Et là aussi, donc, la politique étrangère américaine avait pris fait et cause pour protéger donc ces minorités musulmanes au sein de l'ancienne Yougoslavie, alors jusqu'à bombarder Belgrade et etc., etc., pour éviter ce qu'à l'époque on appelait le génocide des musulmans donc de Yougoslavie. Et là, évidemment, aussi, c'est un exemple où visiblement la politique extérieure américaine était soutenue et était appréciée par les musulmans des États-Unis, par les musulmans dans ce pays.
Professeur Mohamed Bodje, pour votre contribution et vos explications sur cette question concernant l'impact de la politique étrangère sur les relations entre l'administration américaine et les communautés musulmane. Eric Mandrakidza était avec vous. Michel Claire-Joseph a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. Et à la prochaine.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.